Ami. Le podcast Guillaume Richardot, Charles.
Bienvenue dans le podcast d'Ami, qui s'appelle d'ailleurs Ami le podcast diffusé sur Tech Radio. Ben oui, le podcast s'appelle Ami et la radio s'appelle Tech Radio. Salut. Les nouveautés des années à venir, le futur est devant nous. Tiens, ben oui, futur, justement, lui aussi, il est devant nous, c'est Charles. Salut mon cher Charles.
Salut Guillaume, comment ça va?
Eh ben écoute, en pleine forme, et justement, tiens, ben on va pas parler jeux vidéo ce coup-là, on va parler d'avion et on va parler de futur, justement.
Tout à fait.
Je crois que tu vas nous présenter une bestiole hypersonique.
Tout à fait, aujourd'hui on va prendre un peu de vitesse, on va parler de vol hypersonique et de la société américaine qui s'appelle Hermeus. Je sais pas si t'en as entendu parler, ça te dit quelque chose du coup, Hermeus?
Bah non, en fait, Hermeus, non, ça ne dit rien. J'avais déjà entendu parler d'un avion, mais je crois que ce n'était pas un hypersonique, ça devait être un futur peut-être éventuellement remplaçant du Concorde. Et donc ça ne doit pas être le même.
Pas exactement, on va voir en quoi ça va être différent. Mais voilà, du coup, Hermeus, société américaine, start-up américaine, fondée en 2018, qui a pour but de rendre disponible, enfin, qui a pour but le développement, pas forcément de rendre disponible, mais au moins le développement d'un avion hypersonique. Pas supersonique, mais hypersonique. Enfin,
donc il va encore plus vite, alors.
Exactement. Les puristes diront que hypersonique, le vol hypersonique est une sous-régime des vols supersoniques, mais du coup, on va parler de ça tout de suite. Donc, c'est quoi la différence entre supersonique et hypersonique? Bah déjà, supersonique, c'est déjà tout ce qui est plus rapide que la vitesse du son dans l'air. Donc, c'est environ 1000 km par heure. Et donc, voilà, ça, c'est tous les vols qui sont au-dessus de 1000 km par heure sont des vols qu'on dit dans le régime supersonique. Mais il se passe des phénomènes physiques assez bizarroïdes.
Alors, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai une question de curiosité. Je suppose qu'un avion supersonique, déjà, non seulement il vole plus vite que les autres, mais il vole plus haut aussi, il me semble.
Oui, c'est ça. Bah, disons qu'en fait, c'est plus simple de voler vite haut, parce qu'en fait, à des altitudes élevées, il y a moins d'atmosphère, du coup, il y a moins de résistance, donc c'est plus facile de voler vite, en fait.
Voilà, ok, d'accord. Mais je voulais rajouter ce petit détail pour nos auditrices et nos auditeurs.
Ouais, pas de problème. Et donc, dans ce régime de vol supersonique, au-dessus de la vitesse du son, en fonction de la vitesse, de la température, de l'altitude, plein de données, eh ben, il peut se passer des événements physiques particuliers au-delà d'une certaine vitesse. Et c'est là qu'entre en jeu le régime hypersonique, qui du coup se caractérise, qui commence environ, voilà, il n'y a pas une vitesse propre, parce que comme je l'ai dit, ça dépend de plein de paramètres, mais aux alentours de Mach 5, Mach 6, donc 1 Mach c'est une fois la vitesse du son, 2 Mach c'est deux fois la vitesse du son, vous m'avez compris, etc. Donc autour de Mach 5, Mach 6, c'est là que commence le régime hypersonique. Et en fait, il est vraiment particulier ce régime hypersonique par rapport aux autres, parce que c'est dans ce régime que, par exemple, notamment les particules commencent à se dissocier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu as un avion qui est tellement rapide, et la pointe de ton avion avance tellement vite dans l'air, qu'on n'est pas à un niveau où les molécules d'air, les molécules qui sont présentes dans l'air, parce que voilà, il n'y a pas que de l'oxygène dans l'air, mais il y a plein de molécules différentes qui sont des combinaisons d'atomes. Les molécules ne vont pas se contenter de passer de part et d'autre de ton avion. Ton avion ne va pas juste se creuser un chemin entre les molécules. Il va avancer tellement vite et il ne va tellement pas laisser le temps aux molécules de se déplacer qu'il va casser les molécules, il va leur rentrer dedans et les fracturer et les dissocier. Et donc en fait, voilà, c'est dans ces régimes-là que la dissociation de molécules commence à se faire sentir. Et aussi, il y a une histoire de chaleur. On en avait déjà parlé sur d'autres podcasts sur le vol supersonique du Concorde, etc. Les frottements sont tellement élevés à ces vitesses-là que la chaleur est immense. Et notamment dans le régime hypersonique, on a l'apparition de plasma. Donc plasma, c'est un état de la matière, les états les plus connus. Donc c'est solide, liquide et gazeux, et ben il y a un état supplémentaire qui est le plasma, ou qui est à mi-chemin entre le liquide et le gaz, et qui se caractérise par des températures très très des très très élevées, bah voilà, notamment tout ce qui est sur toute la matière qui est sur le soleil, c'est dans un état de plasma, si on peut dire ça. Et donc voilà, c'est là aussi dans les régimes de vol hypersonique que commence à apparaître un plasma autour de l'avion, tellement il va vite, tellement les frottements sont importants. Pourquoi on parle de l'hypersonique? Bah
Donc il
parce
est
que
dans une matière particulière pour résister à ça.
Oui, alors il y a tout un tas de technologies qui sont mises en œuvre pour pouvoir résister à des températures pareilles. Mais oui, voilà, notamment, bah, voilà, il faut trouver des matériaux qui résistent énormément aux températures ou qui puissent dissiper la chaleur d'une manière efficace, quoi. Sinon, l'avion, bah, il fond, tout simplement.
Ce qui est quand même pas
Ce
pratique.
qui n'est pas pratique pour voler.
Non.
Pourquoi c'est l'hypersonique, c'est un sujet d'actualité? Bah, tout simplement parce que c'est assez discret, mais il y a un peu une sorte de course à la vitesse, un peu comme voilà, dans les années 50-60, il y a eu une course à la Lune et une course à l'armement nucléaire, etc. Bah, là, c'est un peu les objectifs dans le domaine aérien au niveau de la défense notamment, c'est qui va arriver à faire des missiles ou un avion ou un véhicule hypersonique, parce que en fait donc du coup les comparer si on parle de si on fait une petite parenthèse niveau des missiles à ce niveau-là, un missile balistique comme il existe aujourd'hui, sont des missiles qui vont partir monter très très haut, aller au-dessus de l'atmosphère, aller dans l'espace et retomber en cloche sur leur cible. Mais du coup, puisqu'ils vont très très haut et qu'ils sont pas à des vitesses hypersoniques, et bah, du coup ils sont détectables assez tôt par l'ennemi, et du coup l'ennemi a le temps de mettre en place des stratégies et des contre-mesures anti-missiles pour stopper ce missile, pour le détruire avant qu'il n'atteigne sa cible. Mais du coup un missile hypersonique reste dans l'atmosphère, il va pas partir dans l'espace et il va tellement vite du coup, donc puisqu'il reste dans puisqu'il est une monte moins haut qu'un missile balistique, et ben il est détectable plus tardivement par l'ennemi, et puisqu'il va très vite, il est aussi plus difficile à atteindre par des munitions anti-missiles. Donc voilà ce qui en fait un missile meilleur et plus qui a plus de chances d'atteindre son objectif, on va dire.
Facile.
Voilà, sa cible. Donc voilà pourquoi on en parle en ce moment, et bah, peu toutes les puissances militaires du monde se penchent là-dessus, du moins les plus importantes, bah, notamment la Chine, les États-Unis, mais aussi la France. Il faut savoir d'ailleurs, petite parenthèse, que la France a été précurseuse dans le domaine de l'hypersonique dès les années 60, où il y avait un programme qui s'appelait le programme Veras. C'était un planeur hypersonique. Veras, ça voulait dire véhicule expérimental de recherche aérothermodynamique et structurale.
Waouh!
Ouais, voilà, c'est c'est tout
La
un petit
classe!
déj. Il y a de quoi manger là.
Ah ouais.
C'est la classe. Donc c'était un planeur hypersonique. Donc en fait c'était un démonstrateur qui n'était pas propulsé par un moteur. Il était foutu sur une fusée qui l'envoyait très très haut et très très vite. Ensuite le démonstrateur était lâché de la fusée et il retombait. Il était guidé quand même. Donc il avait des surfaces qui le permettaient de le diriger dans l'air. Et il était hypersonique. Donc voilà, quand même, il allait à des vitesses hypersoniques. Ça, c'était dans les années 60. Malheureusement, du coup, le projet a un peu sorti de son budget. Donc il a pas. Tout le programme Veras n'a pas été finalisé. Et il n'y a pas eu beaucoup de débouchés là-dessus. Et dans les années 60, voilà, c'était peut-être trop précurseur. C'était trop en avance. Mais il faut savoir qu'on continue encore aujourd'hui à se pencher sur le sujet. Aujourd'hui, le programme s'appelle VMAX, pour véhicule manœuvrant expérimental, pardon. Voilà, c'est un peu plus digeste à dire, du moins. Et donc voilà, c'est un programme franco-français sous la maîtrise d'œuvre industrielle d'Ariane Group, qui est le fa fameux fabricant des fusées Ariane, hein. C'est un programme qui a été lancé en 2019. Et ça encore, et quand je disais que c'est un programme d'actualité, c'est 100% d'actualité parce que le premier prototype du VMAX a été testé le 26 juin 2023, donc il y a moins d'un an au moment où nous enregistrons ce podcast. Et ça, c'était la première version du
roman. Ça a
romance.
Été assez discret parce qu'on n'en a
Ça a
pas
été
parlé
super
hein,
discret.
dans
Et
les
oui.
médias mainstream, comme
Et
j'aime
oui, tout
dire.
à fait. Mais là, tu vois, on commence à. Parce que du coup, ça faisait partie du programme. C'était dans le budget de la défense. Et donc là, on commence à parler de choses un peu, tu vois, classées, secret défense, etc. Donc voilà, ce sont des technologies.
C'est pour ça.
C'est pour ça, ouais. On n'en a pas trop entendu parler. Mais quand même, ça existe. Il y a une page Wikipédia très très courte hein, sur le VMAX et sur le programme VMAX. Et donc voilà, il a fait son premier vol, son premier test en juin 2023. On sait qu'il y a une version 2 du VMAX qui est prévue peut-être pour cette année ou pour 2025. Donc c'est un programme qui est 100% d'actualité. Et voilà, l'hypersonique, c'est 100% d'actualité en 2024. Je referme la parenthèse franco-française, je reviens à Herméus.
Alors attends, moi je fais une
Ah,
parenthèse.
vas-y.
Merci Charles, parce que heureusement que tu es là, parce qu'au moins on entend parler de choses dont les médias mainstream ne nous parlent pas, peut-être pour des raisons, voilà, mais en tous les cas, nous on est ravis dans Ami le podcast d'apprendre ces choses merveilleuses. Dites-le à vos amis. Voilà, je referme ma parenthèse.
Eh ben merci pour cette parenthèse. Donc revenons à nos moutons, ou je devrais-je dire nos chevaux, parce que voilà, petite anecdote, c'est une bonne transition. Le Herméus, la société dont je parlais précédemment, a un prototype, travaille sur un prototype qui s'appelle Quarter Horse. Ah, l'anglais a coupé au couteau.
Quatre chevaux.
Bah, en fait, Quarter, non, c'est ça qui est bizarre, j'arrive
Ah,
pas à
c'est pas bien,
comprendre.
oui, d'accord.
Quarter, c'est un quartier, donc c'est un
Ah, bah
quartier de
oui, c'est
cheval.
vrai. Oui.
Mais ça te parle
Pauvre cheval.
Oui,
Bah
voilà, pauvre
non,
cheval.
non, non. Je cherche, mais.
Je sais pas. Bon,
Non.
écoute, Quarter Horse, c'est un véhicule autonome que Herméus développe. Donc, véhicule autonome, ça sous-entend que du coup, il n'y a pas de pilote dedans. Hein, parce que voilà, pour des premiers tests, ils sont pas entièrement sûrs de pouvoir le contrôler à 100%. Surtout que voilà, à des vitesses comme ça, il n'y a absolument aucune société publique qui s'y est attelée. Hein. Il y a juste, bien évidemment, la NASA et l'US Air Force qui ont eu des avions opérationnel qui allait à ces vitesses-là, mais voilà, une start-up qui s'y attelle, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc voilà, premier véhicule autonome. Il faut savoir que c'est un véhicule de test pour le vol hypersonique. Pourquoi ils font ça? Bah déjà, c'est pour eux collecter plein plein de données sur le vol hypersonique. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, pour tester l'aérodynamique et pour tester le comportement d'un véhicule à des vitesses hypersoniques, tu peux utiliser des modèles, donc des versions plus petites. Qui sont dans les dizaines de centimètres maximum, et tu les mets dans des tunnels d'air qui va très très vite à des vitesses hypersoniques. Mais voilà, ça, ce sont des équipements que pas tout le monde a. Bah, la NASA notamment a des tunnels de vitesse hypersonique, mais qui sont pas forcément accessibles, qui coûtent cher, qui sont difficiles à développer. Donc en fait, Hermes, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est en mode, bon, on va pas trop utiliser de tunnels parce que c'est trop compliqué, ça coûte cher, c'est difficile à mettre en place. On va tout simplement, en fait, un peu se passer de tout ce qui est données de tunnel et fabriquer directement un prototype qui est alors pas à l'échelle totale d'un avion, qui est un peu plus petit, mais qui est quand même assez gros. Genre, tu vois, c'est pas un avion radiocommandé non plus, hein, c'est quand même un gros pépère. Et on va le rendre autonome et on va le faire voler quand même à des vitesses hypersoniques et on va mettre plein de capteurs dessus et on va faire notre science là-dessus. On va récupérer plein de données, ce qui nous permettra de développer plus tard un avion commercial hypersonique potentiellement. Et aussi, c'est ça, je trouve absolument fascinant dans cette société, c'est que du coup, cette plateforme, le Quarter Horse, va aussi permettre de proposer à d'autres sociétés qui s'intéresseraient à l'hypersonique, et au vu des tendances actuelles, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de sociétés qui s'intéresseront à l'hypersonique. Herméus va proposer aux autres sociétés la plateforme Quarter Horse pour eux-mêmes faire leur essai sur l'hypersonique, pour accéder à leurs données. Ils vont en gros dire, ok, bah, vous vous intéressez à l'hypersonique, vous voulez développer votre propre prototype, et bah, sachez que nous, on a déjà un drone, on va appeler ça un drone, un véhicule autonome qui va à des vitesses hypersoniques. Donc si vous voulez tester vos propres moteurs là-dessus, on peut peut-être essayer de s'entraider, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à lever des fonds, à faire un financement pour alimenter leurs autres programmes dont je vais parler un peu plus tard. Mais c'est ça qui est fascinant. Donc alors, bien évidemment, ils ne se reposent pas que sur Quarter Horse pour tirer, ce n'est pas un cheval de trait, voilà, une nouvelle petite blague. Ce n'est pas un cheval de trait, ce n'est pas le seul cheval de trait qui va emmener vers Hermeus, vers leur destination finale. Ils ont aussi des financements un peu à droite à gauche, ce qui prouve encore une fois que c'est un sujet d'actualité et un sujet dans lequel des sociétés souhaitent investir. Bah, il y a notamment voilà, l'US Air Force qui a investi 60 millions de dollars en avril 2021. Et en 2022, c'est 100 millions de dollars de financement qui a été débloqué pour cette société. Notamment l'investisseur principal, c'est un petit mec que tu connais bien, Guillaume, je le sais. Il s'agit de Sam Altman, le CEO de OpenAI.
Mais oui, voilà. Absolument.
Tu le connais bien. Donc quand tu te dis que voilà, quelqu'un qui a été très très visionnaire sur l'intelligence artificielle a investi, alors c'est pas que de sa poche hein, les 100 millions de dollars, mais c'est l'investisseur principal, investi principalement sur des technologies comme ça et sur cette société Hermeus en particulier, c'est que il y a probablement de l'avenir dans l'hypersonique. Alors comment on fait voler un avion ? On va revenir un peu sur les technologies qui sont absolument fascinantes sur ce projet. Comment on fait voler un avion hypersonique ? Ben, je vais vous faire une leçon, mais alors ultra ultra écrémée, parce que bien évidemment je ne suis pas un ingénieur en avion hypersonique et c'est juste des informations que j'ai récupérées. Notamment, tiens d'ailleurs, je permets de rendre à César ce qui est à César. Je me suis beaucoup inspiré pour ce podcast de la chaîne, encore une fois, Real Engineering. C'est pas la première fois que je m'inspire de leurs vidéos, qui ont fait une vidéo sur Hermeus. Et donc voilà, c'est grâce à eux que j'ai récupéré beaucoup de données et beaucoup d'informations sur cette société Hermeus, et c'est grâce à eux que je peux vous faire un micro cours ultra rapide et ultra écrémé sur comment on fait voler un avion sur des régimes hypersoniques. Il faut savoir que un avion, tu le dessines bien, tu le fais très aérodynamique, super, il va pouvoir voler vite si et seulement si il a un moteur qui le fait aller hyper vite. Donc en fait voilà, le cœur principal d'un avion qui va voler vite, ça va être son moteur. Le problème, c'est que quand tu prends un moteur d'avion conventionnel, comme il y a sur les A320, etc., et ben en fait, ils ne peuvent pas du tout marcher à des vitesses hypersoniques. Tout simplement parce que un moteur conventionnel d'avion à réaction comme on a aujourd'hui, il y a plein de turbines qui tournent. Les turbines viennent compresser l'air, donc elles prennent l'air, elles le compressent, donc elles prennent une quantité d'air, elles réduisent le volume de cet air pour le compresser. Et ensuite, on injecte de l'essence dans cet air compressé. L'air va avoir une grande expansion à cause de l'explosion qui se crée avec la combustion du carburant. Et le fait que l'air regagne du volume rapidement, ça va faire tourner d'autres turbines et ces autres turbines sont reliées aux turbines principales qui compressent l'air, et ça fait un sorte de cercle vertueux où plus tu compresses l'air, plus tu vas avoir de la poussée derrière dans les turbines qui vont récupérer cette poussée. Et puisque ces turbines qui récupèrent cette poussée tournent plus vite, elles font les turbines du devant compressent plus, et voilà, ça fait un cercle vertueux. Le problème, c'est que lorsqu'on atteint des vitesses hypersoniques, comme je t'ai dit, il y a plein de phénomènes physiques bizarroïdes qui se mettent en jeu, mais notamment, et tout simplement, et principalement le plus important à gérer, c'est, comme je l'ai déjà dit, la chaleur. Et en fait, on atteint des chaleurs dans des régimes hypersoniques qui font, encore une fois, tout simplement, fondre les moteurs. Donc en fait, tu ne peux pas avoir, tout simplement, voilà, c'est une règle de base, tu ne peux pas avoir un moteur qui fonctionne dans des régimes hypersoniques avec des pièces tournantes comme des turbines. C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Tu peux pas avoir des matériaux qui résistent à des températures pareilles. Les turbines tourneraient trop vite, ça irait pas. Enfin, il y aurait plein de problèmes qui se passent. Donc en fait, la pierre angulaire du problème de faire un avion hypersonique, c'est de créer un moteur qui puisse marcher dans des vitesses faibles aussi bien que dans des vitesses élevées. vitesse faible parce qu'il faut que ton avion tu le décolles et que tu le fasses atterrir quand même, bah là tu le feras, enfin tu peux pas mettre un avion sur la piste et dire ok tu passes de 0 à Mach 5 instantanément et voilà, il faut que ton avion il avance progressivement vers ces vitesses là, donc il faut qu'il puisse avoir un moteur qui marche à basse vitesse, donc il faut qu'il y ait un moteur qui puisse avoir des turbines et qui puisse marcher à ces vitesses faibles, pardon. Et il te faut aussi une autre partie de ton moteur. Il faut que ce soit un moteur qui puisse fonctionner à des vitesses hypersoniques, qui du coup qui n'utilise pas de turbine à ces endroits-là.
Donc en fait, à ce moment-là, moi qui t'écoute religieusement, vas-y. J'ai envie de te dire, peut-être que la solution, c'est qu'ils ont mis deux styles de moteurs sur leur engin. Le moteur pour aller de 0 à Mach 2 et un autre moteur qui prend la relève pour aller plus vite.
Eh ben c'est quasiment ça. C'est pas deux moteurs l'un à côté de l'autre en mode
droite-gauche. C'est un moteur qui fait les deux.
C'est, on va dire, un moteur qui fait les deux. En fait, et ils ont utilisé Hermes, ils utilisent une solution qui est, je trouve, absolument brillante. C'est qu'ils ont pris un moteur qui est le General Electric J85, qui est un moteur d'avion de chasse qui existe depuis très longtemps, qui est très qui savent exactement bien comment il marche, c'est des vieilles technologies, ça marche du feu de Dieu, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop d'électronique dedans. Et en fait, à la sortie de ce moteur-là, ils rajoutent leur propre module à eux qui marche à l'hypersonique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aux faibles vitesses, le moteur d'avion de chasse il marche et il propulse l'avion le Quator Horse, il le fait avancer jusqu'à des vitesses élevées mais pas hypersoniques, le moteur.
Et après l'autre, il prend le relais.
Et en fait, au bout d'un moment, il y a un bypass, c'est-à-dire qu'on vient récupérer l'air qui normalement entrerait dans le J85, dans le moteur d'avion de chasse. On vient récupérer cet air-là, on le fait passer autour de ce moteur et on le met à la sortie dans le module développé par Hermeus qui s'appelle Chimera. Ah oui, Chimera. Chimera, c'est le module développé par Hermeus qui est un moteur qui fonctionne dans des régimes hypersoniques. Et donc en fait, voilà, donc pour revenir un peu sur la physique, ce qui est très marrant du coup dans ce régime hypersonique, c'est qu'en fait, tu vas tellement vite, c'est difficile à comprendre, à s'imaginer, mais en fait, l'air, quand ton avion il atteint une vitesse hypersonique, il avance tellement vite que l'air qui rentre dans le moteur n'a pas besoin techniquement d'être compressé. Il se compresse tout seul parce qu'en fait, l'air avance tellement vite que il y a tellement d'air qui se met dans le moteur qu'il est auto-compressé, si je puis dire. C'est pour ça que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir de turbine dans un moteur qui marcherait dans des régimes hypersoniques, parce que l'air se compresse tout seul, en fait. Et donc, je trouve que
il se compresse, je suppose, par la forme de la cavité dans laquelle il rentre.
C'est ça, exactement. En fait, tu as juste à avoir ton entrée de moteur, juste à avoir un tout petit effet tunnel, un tout petit effet...
Petit entonnoir.
Entonnoir, merci, c'est le mot que je cherchais. Mais vraiment très très léger. Hein. Et juste ça, ça permet de faire en sorte que l'air se compresse tout seul. Et donc c'est absolument incroyable. Et c'est des mathématiques et de la physique dans des niveaux qui sont tellement avancés qu'on n'arrive pas à s'imaginer en fait. Mais du coup voilà. Et donc je trouvais absolument brillant l'idée de se dire de toute façon on va racheter des vieux moteurs d'avions de chasse parce que ça existe depuis ces moteurs là ils existent depuis très longtemps et puis c'est des avions en plus qui vont tout doucement, il y a encore des armées de l'air dans le monde entier qui l'utilisent, cet avion-là, oui, enfin ce moteur-là, le J85, qui est dans le F5, c'est le nom de l'avion de chasse qui utilise le J85. Il y a encore des armées de l'air qui l'utilisent dans le monde, mais progressivement elles s'en débarrassent. Donc en fait, ils ont eu une solution qui est super intelligente parce que du coup, ils n'ont pas eu à développer de moteur d'avion de chasse. Ils achètent probablement pas cher du tout. Tout est relatif, c'est un moteur d'avion de chasse quand même. Mais ils achètent probablement pas cher des vieux moteurs de F5. Ils achètent des J85 un peu à droite à gauche, des armées de l'air qui veulent s'en débarrasser. Et eux, en fait, du coup, ils ont juste à greffer leur module fait maison. Et voilà, ils arrivent à avoir plein de prototypes d'avions qu'ils peuvent tester aussi bien qu'ils veulent pour relativement pas très très cher. Donc je trouvais que c'était une idée très très bonne. Et donc avec ce système là de moteur d'avion de chasse et de modules supplémentaires rajoutés par-dessus, et donc c'est avec ça qu'ils vont motoriser leur Quarter Horse et aussi leurs autres projets. Donc voilà, ils ont trois projets principalement Hermes en ce moment, mais enfin ils travaillent en ce moment sur le Quarter Horse. Les autres, ce sera pour des années à venir. Donc le premier, le Quarter Horse, comme j'ai dit, qui sera une plateforme de test de vol hypersonique. La suite, ce sera le Dark Horse, donc le cheval noir, ou cheval foncé, comme tu veux, quand tu veux l'appeler, qui va être un remplaçant du SR-71. Donc les fans d'aviation savent tout de suite de quel avion je viens de parler. Le SR-71, c'était un avion espion de la guerre froide développé par les États-Unis, qui était un avion aussi hypersonique ou supersonique, non je crois hypersonique, non autant pour moi, il allait à Mach 3, donc c'était un avion supersonique, pas hypersonique. Et donc c'était un avion qui était designé pour voler très très haut, très très vite, pour pouvoir espionner derrière les lignes ennemies et rentrer rapidement. Et donc en fait voilà, le Dark Horse, ça va être le remplaçant du SR-71, bien que le SR-71 n'est plus utilisé aujourd'hui, mais ça va être son remplaçant spirituel, parce que voilà, ils veulent faire un avion militaire qui est capable de voler très très haut, très très vite, cette fois-ci dans des régimes hypersoniques, donc au moins un Mach 5, voire plus, et en faire un avion d'espionnage américain pour l'US Air Force. D'où là encore une fois la raison pour laquelle l'US Air Force a investi 60 millions de dollars dans la société Hermes. Et au final le Dark Horse et le Quarter Horse vont aussi servir à développer leur projet ultime qui s'appelle Halcyon, qui est lui le remplaçant spirituel du Concorde, mais qui ira quand même deux fois plus vite que le Concorde, hein. Ils estiment qu'ils pourraient faire, s'ils arrivent à voler dans des régimes hypersoniques, Paris-New York en 1h30. Donc voilà, deux fois plus vite que le Concorde. Halcyon, ce sera du coup comme le projet qu'ils étudient pour faire un avion commercial en régime de vol hypersonique. Donc voilà, bien évidemment on ne verra pas ces projets avant de longues longues années. Ça c'est juste les projets, et en utilisation commerciale en mode régime de croisière, ce sera encore certainement plus long. Mais voilà, c'est encore une fois, tu parlais du futur tout à l'heure, le futur se construit aujourd'hui, le futur se construit dans le présent. Donc voir une société comme ça, et je pense que c'est la première d'une grande lignée, travailler sur des projets comme ça, et c'est toujours fascinant et passionnant. Et voilà, il y aura encore plein d'autres évolutions technologiques à voir dans la chaîne de ces projets-là. Et d'ailleurs, dans les interviews qu'il y a eu sur notamment le patron de Hermes, il compte 100% là-dessus. Ils disent, ok, voilà, nous aujourd'hui on travaille sur des prototypes et autres, mais on sait que pour que nos projets soient viables dans 10, 20, 30, voire bien plus longtemps, on doit se baser, on doit espérer qu'il y a, on doit prévoir, on doit parier sur le fait qu'il y aura des technologies dont on ne connaît pas l'existence aujourd'hui, qui vont se développer. Ils parlent de technologies pour le stockage de carburant, ou alors de l'efficience des moteurs, et voilà, il dit, ok, nos projets, ils marcheront si et seulement si il y a des technologies qui vont émerger demain et qui viendront nous aider. Donc on est au moins, je pense qu'on peut être confiant sur le fait qu'on aura plein de nouvelles technologies à vous partager sur Ami et sur Tech Radio.
Et en tous les cas, je suis sûr que ce podcast aura fait très plaisir à tous les palefreniers, n'est-ce pas mon cher Charles?
Les palefreniers?
Ah oui, palefrenier, tu as parlé beaucoup de cheval.
Ah oui, bien sûr.
Ah, toi, le palefrenier, cheval, tout ça. Ben, on s'amuse comme on peut. Hein.
Tout à fait.
En tous les cas, écoute, c'était passionnant, j'ai adoré. J'étais entre la Terre et l'hyper-Terre, hein, parce qu'on a volé haut quand même. Et c'était absolument génial et passionnant. Voilà, volé haut et vite. Et on a volé dans le futur. Et nous, évidemment, dans Ami le podcast, on aime ça. Et si vous aussi vous aimez ça, eh bien laissez-nous un petit message, contact@amilaradio.com ou alors au 01 76 21 18 10. Ça nous fera toujours extrêmement plaisir. Charles, merci, je tiens à te le dire, parce que c'est toujours aussi un plaisir de te retrouver dans ce podcast Ami le podcast. Et comme j'aime terminer par à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous laisser des commentaires. On en a, on les lit. Hein. Moi, je vous le dis, donc merci. Donc, plus il y en a, plus on est content. Et mon cher Charles, donc à bientôt pour de nouvelles aventures.
Salut.
Ami, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.